La Cru-Cru Prod présente
Murmuration,
une fiction sonore de Lila Janvier.
Bonjour.
Bonjour, monsieur Benou.
Benou, c'est ça.
Un paquet pour vous.
Merci.
Une petite signature ici, je vous prie.
Oui. Hop. Merci.
Merci, bonne journée.
Bonne journée à vous.
Allez, on se pousse là.
Raphaël. Wow. J'y croyais plus. Cet emballage pour une clé USB. Ma sœur. Ou l'art d'en faire des caisses.
Alors. Elio. C'est aujourd'hui. Le jour numéro 237 de ma mise à l'écart volontaire et silencieuse. Pendant tout ce temps, je n'ai pas eu besoin d'écrire. De donner des nouvelles. Les autres n'avaient rien à voir avec ça. Aujourd'hui, je sors du grand mutisme. Et cela fait bien longtemps que je n'ai pas entendu le son. Le son de ma voix. Comme tu le sais, j'ai décidé de faire vœu de silence pour me rapprocher de ce qu'on appelle Dieu. Enfin, me rapprocher de lui, c'est beaucoup dire, je ne prétendais pas devenir sa confidente. Ce que je voulais, c'était l'entendre, peut-être le rencontrer. En tout cas, je voulais comprendre de quoi on parle quand on dit Dieu, si ça existe. Je sais que toi, tu trouves ça ridicule, comme nos parents et comme beaucoup de mes amis. Mais je sais aussi que tu sauras m'écouter, que toi, tu me crois d'une foi inconditionnelle. Après 237 jours dans la peau de Jeanne d'Arc, je vais te faire part de mes révélations. Petit frère, mercredi, le monde aura changé. Quand je dis changer, je parle d'un vrai changement, pas d'une perception. Dans 2 jours, il se passera quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de définitif. Et je crois être la seule à le savoir. Ici, c'est lundi, et j'ai dit dans 2 jours, mais dans ton espace-temps, c'est déjà demain puisqu'il y a eu le facteur entre nous. Chez toi, il est mardi, donc chez toi, c'est demain. Je veux t'avertir pour que tu n'aies pas peur, pour que tu accueilles ce bouleversement avec confiance. Je veux remplir mon rôle de sœur, de protectrice, de petite mère qui couve et rassure. Aujourd'hui, je romps le silence uniquement pour toi. Mais ce sera à toi de te taire après que j'ai parlé. Personne d'autre ne doit entendre ce qui va suivre.
On s'emmerde.
Sois pas si impatient.
Mais j'en peux plus d'attendre. Je vais aller faire un tour au-dessus du périph'.
C'est vraiment pas malin, Tac.
Je vois ce qui pourrait m'arriver.
C'est bien ça, le problème. On peut pas se permettre d'imprévus, pas maintenant.
Ouais. Mais c'est la tension qui monte, là, l'excitation. Ça me transperce le gosier. Faut que je bouge, Nune.
On doit rester calme et concentré, tac. Sinon, on sera pas prêt au moment de passer à l'acte.
Arrête. Oh, tu me stresses.
Comment ça, je te stresse? Putain, c'est toi qui saute partout depuis tout à l'heure. Épouille-toi, je sais pas, occupe-toi, mère, descends un peu.
Mais Nune, tu stresses pas, toi?
Non.
Alors rassure-moi. C'est chiant, j'ai l'impression que tout va foirer.
Bon, tac. Tu vois le vol Eastern Airlines Flight 375 qui s'est crashé, là, en 1960?
Bien sûr. L'attentat foireux par excellence, justement.
Je suis pas d'accord. Écoute-moi. Ils se sont jetés sur les réacteurs, comme prévu. Ils étaient prêts. Ils étaient coordonnés. C'était d'une extrême violence, un symbole terriblement fort. Et c'est vrai, il n'y a pas eu d'écho. Mais ça n'a pas marché parce que nous n'étions pas unis. La communauté n'a pas soutenu cette action, elle n'a pas suivi le mouvement. Alors que ça aurait pu être le détonateur d'une prise de conscience planétaire. Aujourd'hui, c'est différent, Tac. Quoi qu'il arrive demain pour toi et pour moi, je sais qu'ils et elles seront derrière.
Je t'aime, Nune.
Moi aussi, je t'aime, mon grillon.
Elio, avant de te dire ce qui va arriver, en tout cas ce que j'en sais, je dois te raconter comment j'en suis arrivée là. C'est fou de ne plus s'entendre, de ne produire aucun son. De jour en jour, le silence s'est installé dans mon corps, a pris possession de mes gestes, que j'arrivais peu à peu à exécuter sans produire le moindre bruit. J'ai adopté une nouvelle façon de marcher. J'ai pris des postures étranges pour éviter tout craquement et ne percevoir que l'extérieur. J'ai presque disparu pour moi-même. J'ai alors pu entendre ce qui m'entourait. Entendre vraiment. Les chiens des voisins. Les voisins eux-mêmes. Les claquements de portes et de volets. La route. Les chats qui traversent la route. Les arrosages automatiques. Les enseignes publicitaires à face déroulante. Le vent dans les trois arbres de mon jardin. Et les oiseaux. Le chant des oiseaux a pris une place grandissante dans mon esprit de recluse. Des mélodies savantes, des partitions surprenantes faites d'accords et d'harmonies complexes, des compositions collectives qui matérialisent l'endroit, le jour et l'heure. Cher petit frère, je n'entendais pas Dieu. J'entendais la vie autour et surtout les oiseaux. Alors j'ai pensé que les oiseaux étaient peut-être Dieu.
Et que je devais trouver un moyen d'entrer en communication avec eux.
Les oiseaux.
Tu sais, Nune, je me demande si elle est aussi innocente qu'elle en a l'air. Elle nous observe à longueur de journée. On dirait une poule. Elle se pose là et elle nous regarde avec sa tête un peu penchée. Elle nous écoute, Nune. Je sens qu'elle saisit des choses qu'elle ne devrait pas saisir, tu vois?
Peut-être qu'elle a compris, Tac, peut-être. Moi, elle ne me fait pas peur, cette fille.
Si avant demain, elle trouvait le moyen d'avertir ses congénères, si elle faisait alliance avec les effaroucheurs, les artificiers et les chasseurs pour nous tendre un piège.
Mais elle passerait pour folle. T'es parano, Tac.
Je l'ai entendue causer hier, toute seule. C'était bien la première fois depuis qu'on est dans ce trou. J'ai rien compris. Mais elle produisait des sons étranges. Ça avait une texture sirocco, tu vois. Une tendresse un peu pathos, avec parfois des notes, comment dire, exaltées, plutôt flippantes. J'ai cherché à l'imiter pour voir sa réaction, pour lui montrer que je l'avais à l'œil. Bon, niveau vocalisation, c'était pas très concluant. Mais elle faisait pas la maline. J'ai bien vu qu'elle était toute tendue.
Tu devrais rester concentré sur les chiens, Tac. On compte beaucoup sur toi demain. Tu es trop dispersé là, il faut que tu te recentres sur le plan. Ne t'inquiète pas pour cette fille. Je lui crèverai les yeux s'il le faut. Demain, c'est le jour des oiseaux. Le carnaval des volatiles. La grande fête sauvage dans le ciel, une foudre de plumes qui s'abattra enfin sur terre.
La polyphonie va bientôt commencer, Nune. On aura peut-être des nouvelles des alouettes des champs. Elles se font empoisonner par centaines depuis quelque temps, dans l'étendue là-bas. Les merles ont retrouvé des carcassières sur les bords des cultures.
Encore ? Oh, c'est horrible.
Ça commence. Allons sur le perchoir.
Elio, ne me prends pas pour une folle, s'il te plaît. Écoute cet enregistrement jusqu'à la fin.
Petit frère, je suis sûre que tu te souviens des vols des tourneaux qu'on voyait au-dessus de la place du village au crépuscule de l'automne et du jour. C'était le moment du départ, de la migration. Ici, depuis quelques mois, j'assiste tous les soirs à des nuées gigantesques qui dansent au-dessus de mon quartier. Des murmurations qui dessinent des formes à contre-jour des lampadaires et du soleil couchant, comme des bancs de poissons dans le gris des cieux. Ne comprenant pas pourquoi ils se réunissaient ainsi par milliers hors saison migratoire, je me suis prise plusieurs fois pour l'oracle qui devait déchiffrer ces signaux. Non, je suis devenue l'oracle. Un jour, j'ai remarqué qu'un couple avait bâti son nid dans le frêne. Je les vois bien depuis la fenêtre de la cuisine. Je me suis dit qu'ils avaient choisi mon jardin. Je me suis sentie concernée. Alors j'ai minutieusement étudié chacun de leurs sons. J'ai décodé leurs chants, leurs postures, leurs comportements.
Petit à petit, j'ai compris leur langage, Elio.
Je peux maintenant traduire précisément le ramage de ces deux-là. Tiens, le mâle vient de se poser sur le rebord de la fenêtre. Il me regarde fixement. Je ne bouge plus pour ne pas l'effrayer. Il doit être étonné d'entendre ma voix. Maintenant, il chante. Je ne sais pas si tu l'entends. Il cherche à reproduire mes vocalisations. Les étourneaux sont de formidables imitateurs. Parfois, je les entends aboyer comme des chiens, jusque tard dans la nuit. Ils s'entraînent. Oh, il est parti. Qu'est-ce que je disais? Oui. Ils s'entraînent, Elio. C'est là que je veux en venir. Les étourneaux, associés à toutes les autres espèces d'oiseaux, ont mis au point une offensive mondiale extrêmement bien réfléchie. Dans 2 jours, tout sera à terre.
Tac, j'ai vu Tic à la polyphonie tout à l'heure. Là. Tic, tu sais, le cormoran noir. Il y a du changement.
Quoi? Mais c'est trop tard pour changer quoi que ce soit.
Ne panique pas, Tac, et écoute-moi.
Mais Nune...
Le signal ne partira pas des hérons cendrés, mais des cormorans. À la tombée du jour, les cormorans noirs plongeront dans les océans. Il leur faudra moins d'une minute pour atteindre les profondeurs, là où se trouvent les câbles sous-marins de l'Internet mondial. Ils les sectionneront. Les festivités commenceront quand le web sera HS.
Attends, t'as dit à la tombée du jour, là ?
Oui, tac. On peut pas attendre une nuit de plus, il y a des soupçons de fuite. Le lancement, c'est ce soir.
Mais on n'est pas prêt.
Si, mon grillon, tout est parfaitement prêt. Et le soleil va bientôt se coucher, c'est maintenant.
Les goélands sont au courant ?
Oui, ça a fait le tour, apparemment.
Mais qui nous préviendra quand ce sera fait, là, les cormorans, les câbles, l'internet, tout ça ?
Les huppes faciées. Elles déploieront leurs crêtes d'un coup sec et synchronisé en poussant un cri aigu. Vu leur nombre, ça devrait faire un sacré boucan sur la surface du globe.
Ok. Ça tient la route. Pour la suite, on enchaîne pareil ?
Oui.
Alors je vais mettre en place. Je t'aime, ma crevette.
Attends, tac !
Elio, Disney avait tout faux. Les mésanges ne vont pas gentiment installer la nappe de Blanche-Neige en la portant aux quatre coins comme des servantes habiles.
Quoi, Nune ?
J'ai un peu peur.
Toi, Nune ? Toi ? Nune, écoute-moi bien. De notre côté, on va aboyer comme des fous. On va gueuler comme des chiens en tournoyant au-dessus des entrepôts. Comme prévu, ils sortiront à toute vitesse. Comme prévu, nous, on plongera sur eux pour les effrayer et vous, vous foncerez à l'intérieur. Vous serez des milliers, Nune, à saccager le moindre fil électrique. Ça prendra quelques minutes. Comme prévu, les vautours fauves seront juste derrière. Comme prévu, ils lâcheront sur les quais de chargement, par centaines de litres, cette saloperie toxique qui est en train de nous décimer.
Mercredi matin, se lèvera le jour des oiseaux. Le carnaval des volatiles.
Court-circuit, fusion des plombs, augmentation du courant, atmosphère abrasive, sol inflammable. Boum !
La grande fête sauvage dans le ciel. Une foudre de plumes qui s'abattra sur terre.
Nune, ce plan génial que tu as élaboré sera un furieux succès. Et moi, je t'attendrai amoureusement à l'extérieur. Quand tu sortiras de là, on prendra de la hauteur. Et on contemplera le brasier que sera devenu cette plateforme logistique. Tout ira bien, nous.
Les oiseaux, par centaines de milliers, vont mettre à sac les centrales, les grandes et petites surfaces, les péages et les stations, les salons de ci et de ça, les infrastructures de toutes sortes, les foreurs, extracteurs, suceurs, pompeurs, épandeurs, racleurs. Burn out. Dysfonctionnement généralisé. Mise hors d'état de marche, hors d'état de nuire.
Raphaël, je revois ton doigt qui me montre le ciel. Je te regarde, toi. Tu joues et tu dis... Je suis le pharaon, l'oiseau a jailli du cœur d'Osiris. Je regarde là-haut et je le vois, l'oiseau. C'est une comète aux yeux de chouette. Elle fend le ciel en poussant des cris et en tirant la barque des morts vers le soleil levant. Elle avalera le serpent s'il se met en travers de sa route.
Tac, on doit survivre à l'incendie.
Nune, nous sommes le phénix.
Quand nous y serons, dans la tempête de cendres, je chanterai l'ibis pour que tu me retrouves, mon grillon.
Je te retrouverai, ma crevette.
Nous rejoindrons alors les autres pour lâcher sur les grands hôtels et sur tous les palais des tonnes de viande et de carcasses.
Nous hanterons les rues en battant des ailes, griffes et serres en avant.
Nous chanterons si fort que l'espace ne sera plus qu'un écho.
Elio, t'es toujours là ?
Les pyramides s'entr'ouvrent et les dessins s'échappent.
C'est divin, non ? Du Nil aux steppes sibériennes, du Rio Grande au Mont Taishan, des grands canyons à l'Euphrate. Du Cap Horn au Cap Town, les voilà. Ils surgissent du paléolithique et du futur en même temps. Et tourneaux, pies, buses, piques, flamands, charbonnières, grimperons, cigognes, perruches, autruches, rouge-queue, sitelles, rouge-gorge, palombes, pigeons, grues, tourterelles, bergeronnette, perroquet, mouette, hirondelle, moineau, loriot, corneille, chouka, corbeau, chardonneret, bouvreuil, axe-sauteur, épervier, douille, kiwi, weka, fantail, faucon, fauvette, gêne, gobe.
C'était Murmuration, une fiction sonore écrite et réalisée par
Lila Janvier,
avec Elio,
Manu Gilles,
la factrice
Lisa Chen,
Raphaël, Charlotte Perrin de Boussac, Tac,
Marek Castelnik,
Nune,
Lila Janvier,
création musicale
Youssef Gazal,
assistante à la réalisation
Lisa Chen,
prise de son, montage et mixage
Mathias Guilbeau.
Merci aux habitantes et habitants du 40 et 42, humains et volatiles. À Tom Grimaud, Benoît Bory, Clémence Aumont, Arnaud Clément, Emmanuel Trépanu et Anne Engelhardt.
À 13h30 dans le magazine de Canal Sud, on vient d'écouter la création sonore Murmuration qui a été écrite par Lila Janvier qui est avec nous dans le studio et en compagnie de deux camarades qui vont peut-être se présenter autour de la table. Salut à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Donc oui, je suis venue avec Mathias Guilbeau qui a fait tout le son donc, sur cette fiction radiophonique. Donc la prise de son, le montage et le mixage. Et je suis venue avec Perrine Bignon, qui fait partie de la même compagnie que moi. On fait partie de la compagnie L'Étoile Cirée, qui est une compagnie de théâtre de rue. Et donc je l'ai invitée aussi à venir parce que ce projet-là, Murmuration, s'inscrit aussi dans un projet de la compagnie autour de la question des oiseaux. Donc voilà. Parler un peu de ce projet globalement.
Super, bah ça tombe bien parce que très bizarrement j'avais prévu de vous poser des questions sur les oiseaux, voilà, comme ça tombe vraiment, c'est un heureux hasard. Là on vient d'écouter cette fiction sonore, cette création sonore on va dire. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu dans quel contexte elle est née, qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire, quelles ont été vos sources d'inspiration?
Oui, alors en fait j'ai écrit cette histoire pendant le premier confinement. Tout bêtement, il y a eu un appel de France Culture à l'écriture de fiction radiophonique. Et déjà avec la compagnie, on avait travaillé un peu sur des écritures sonores juste avant le premier confinement. Et donc, j'étais un peu encore dans cette envie-là de poursuivre un travail de narration à travers le son. Et puis, pendant le premier confinement, il y avait le silence, en tout cas là où j'étais. Et du coup, beaucoup les oiseaux. On avait déjà prévu aussi de travailler sur la question des oiseaux avec la compagnie. Et donc, je m'étais plongée dans tout cet univers-là avec des recherches un peu scientifiques sur les différentes espèces, etc. Donc, ce silence a amené une écoute et voilà, une envie de raconter cette histoire-là. Et après, j'ai très vite sollicité des compères pour m'aider à réaliser cette histoire, cette fiction qui n'a pas du coup été sélectionnée par France Culture, donc je me suis débrouillée.
Oui, mais elle a été sélectionnée par Canal Sud.
C'est ça. C'est encore mieux.
Mathias, est-ce que toi, tu peux parler un petit peu de toi, ta participation à ce projet? Toi, tu étais plutôt dans le montage, mais bon, ça fait aussi partie du processus créatif puisque le montage participe aussi à raconter l'histoire et à la mettre en forme.
Ouais, en fait moi Lila m'a contacté pour faire tout le processus technique en fait, donc de la prise de son au montage au mixage. J'ai été aidé de Hee-jin Kim aussi, qui m'a aidé surtout à la prise de son. Et après en fait ça a plutôt été un gros travail de montage effectivement, avec la base d'écriture qu'avait Lila, et après de commencer à monter tout ça rythmiquement, etc. Et de faire un peu les créations aussi acousmatiques, sonores autour quoi. Du coup, ouais, ça a pris de avril à septembre, en fait, parce que je faisais ça sur mon temps libre, à côté des cours et d'autres créations, quoi.
Ok, alors peut-être, justement, on pourrait commencer par parler du thème des oiseaux, puisque ce que tu racontais, Lila, c'est que c'est une source d'inspiration à la fois dans le cadre de votre compagnie Toile Cirée, mais aussi pour cette création sonore. Du coup, qu'est-ce que vous avez trouvé dans les oiseaux qui vous a tant inspiré? Là, il y a un petit peu tout ce jeu de... On voit bien, on sent bien que que t'as été dans une position d'observatrice à te poser des questions sur les modes de communication, que même on inverse un petit peu les rôles à un moment où on parle de la manière dont les oiseaux pourraient nous observer. En quoi est-ce que le choix des oiseaux permettait justement de dérouler toi ton récit et ton imaginaire plus que une autre d'autres animaux?
Parce que les oiseaux, en fait, c'est selon moi, enfin selon mon observation, c'est l'espèce sauvage qui est la plus présente constamment autour de nous, de manière hyper proche. C'est une espèce non domestiquée qui est absolument partout, qu'on soit en ville, à la campagne, en mer, sur terre, tout le temps. Il y a cette espèce, enfin ces espèces-là, qui nous environnent d'une manière très proche. Et du coup, moi, en me penchant un peu plus sur le sujet des oiseaux, qui sont plutôt les sujets, mais voilà. Je me suis rendu compte à quel point on y faisait peu attention, en tout cas moi j'y faisais pas beaucoup attention, et que ça présentait une diversité de comportements et de façons de vivre le monde sur un même endroit sur le même endroit dans lequel moi je vivais. Il y avait un milliard de comportements possibles vis-à-vis de cet endroit là. Et donc j'avais envie de les prendre comme des voisins, en fait, comme vraiment des sujets. Et après, c'est une façon aussi d'inverser avec ce récit-là. C'est une façon d'inverser un petit peu les rapports de force, de s'amuser à inverser le rapport de force dans comment on considère la nature et l'environnement, entre guillemets. Donc, au lieu que la nature soit un objet, la nature devient un et même plusieurs sujets. Et là, j'avais envie de donner la parole à ces sujets-là. Donc, les oiseaux se mettent à parler parce qu'ils sont des sujets. Ce n'est pas un objet qui nous environne, c'est des sujets qui vivent à côté de quelqu'un et qui agissent avec intelligence et là, avec même préméditation. Sur leur avenir, sur la vie et sur le monde en général.
Ça leur donne du pouvoir. Est-ce que toi, Perrine, tu veux justement peut-être évoquer la place qu'ont les oiseaux dans vos créations plus de théâtre de rue, si je ne me trompe pas, puisque vous faites... dans vos créations théâtrales, ouais.
Les oiseaux... Enfin, la thématique que va traiter Lila dans Murmuration et les différents projets, c'est aussi sur le rapport à l'espace et comment là les oiseaux occupent l'espace et cohabitent avec les humains ou pas. Et plus généralement, dans le travail qu'on fait avec la compagnie, l'espace il a une place très importante puisqu'on joue principalement dans la rue ou en tout cas dans les espaces non dédiés et en extérieur. Et de la même manière que nous, quand on travaille, on va essayer de considérer l'espace comme un sujet de l'histoire et comme une force narrative dans la même valeur qu'un texte ou des personnages. On va essayer de lui donner un rôle à l'espace. Et du coup, ça fait très écho avec le travail de Lila sur les oiseaux. Et il se trouve que dans la dernière création, les oiseaux ont aussi une force symbolique tout au long du récit, même si ça ne traite pas du tout des oiseaux, mais que c'est bien des personnages humains dans le dernier spectacle qui s'appelle Fugue. Les oiseaux sont aussi la symbolique de la liberté, en tout cas, qui est tout au long du récit. Du coup, ça fait des échos avec ce projet-là qui est à venir.
Alors justement, est-ce que vous pourriez peut-être présenter un petit peu toute l'équipe qui a participé à cette création? Tout à l'heure, hors antenne, vous évoquiez justement ce comédien qui joue le prénom de...
Tac. Il y a cinq personnages dans l'histoire. Donc, il y a Marek Castelny qui joue Tac, l'oiseau mâle. Il y a Manu Gilles qui joue Elio, le frère. Lisa Schell qui a aussi été assistante à la réalisation et qui joue la factrice. Charlotte Perrin de Boussac, pardon Charlotte si tu m'écoutes, qui joue Raphaël, et moi qui joue Nune. Donc, alors, ce sont tous des comédiens, comédiennes, ou, voilà, ils sont pas directement rattachés à la compagnie. Nous, la compagnie Toile Cirée, on fonctionne comme un collectif, et on est, on va dire, 5 à être vraiment dans la gestion, le noyau dur qui travaille au développement artistique et logistique la compagnie. Et après, il y a d'autres éléments, d'autres personnes qui viennent travailler sur différents projets. Donc, là, cette fiction sonore, je l'ai un peu créée en parallèle de la compagnie et d'une logique de production, etc. C'était une chose un petit peu à part pour aussi tester les prémices d'une idée, d'un projet, etc. Et puis après toute cette période-là de confinement, de tout ça, c'était aussi un moyen de se retrouver de manière un peu simple autour d'un projet artistique et ludique et tout. Et un peu expérimental, sur le son, j'avais très peu d'expérience en termes d'écriture sonore et tout ça, donc c'est aussi pour rencontrer d'autres artistes, créer des échanges. Mais après sur le reste de la compagnie, il y a donc les autres personnes qui travaillent dans la compagnie, il y a Anna Aliabeuf, Nathalie Aftimos et Charles Baudin qui est à la production. Voilà, on est une petite équipe qui travaille à l'artistique, réflexion, tout ça.
Super, je vous propose de faire une petite pause musicale et après on reviendra pour parler de tout ça.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas: regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit: prends patience, mon ami, prends patience vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, et t'éclaire de ses phares. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps en se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité.
Thank you. patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience. Vers un nouveau rivage.
Pas. 13h45 sur Canal Sud 92.2 pour la suite du magazine. On discute ensemble avec des membres de la compagnie Toile Cirée, mais pas seulement, de cette création sonore, Murmuration. Et pour poursuivre notre discussion, on a bien envie de vous demander un petit peu des précisions sur la réalisation. Justement, on a entendu qu'il y avait plein de sources. Enfin, on imagine en entendant que vous vous êtes amusé avec différents matériaux, différents objets. On entend aussi de la contrebasse. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez créé tous ces sons qui composent justement cette histoire et qui nous font un peu voyager?
Ouais, bah en fait c'est plusieurs sources. Il y a à la fois la prise de son en direct, donc c'était des bruitages qu'on a réalisés pendant le moment de tournage, donc ça va être les sons de paille, les sons un peu métalliques, tous ces sons là en fait ils sont là pour comment dire, créer un peu ce nid où Takenune vive quoi. Et il y a la contrebasse aussi, a été enregistrée pendant le temps de tournage dans la chambre de Lila, du coup, dans son petit studio, qu'on avait arrangé pour que voilà, ça sonne bien. Et après, toutes les créations autour, donc qu'elles soient acousmatiques ou créations sonores, ce moment-là où il y a...
Ça fait deux fois que tu utilises le terme acousmatique. Ouais. Et bien que travaillant dans la radio, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Bah, en gros, c'est utiliser des sons en les décontextualisant de leur source. Donc par exemple, voilà, un son de tasse, au lieu de comprendre que c'est un son de tasse, on va réutiliser ce son grossièrement. Hein. Il y a plein de gens qui me tueraient, mais et le réutiliser pour en faire une matière musicale. Donc là, en fait, par exemple, dans la pièce, il y a un moment où... Charlotte.
Raphaël,
merci. Ça fait longtemps, ça y est.
6 mois de montage, j'ai oublié.
C'est ça. Où Raphaël, en fait, parle d'un moment d'introspection sonore et tous ces sons-là, je les ai utilisés à la fois avec des micros spécifiques comme des géophones. Donc, c'est des micros qui se mettent sur des surfaces en métal et qui récoltent ces vibrations-là, de ces surfaces. Donc, j'ai utilisé ça pour faire une matière rythmique. Ensuite, il y a un peu des volets qui claquent, mais que sur lesquels j'ai mis un filtre pour...
Comment ça fonctionne les géophones, c'est... Ouais. Tu peux expliquer comment... Parce que c'est vrai qu'en effet, je m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que tu en parles maintenant, mais il y a cette... Vous avez réussi à retranscrire justement ces ondes ou ces basses très très fortes, j'imagine grâce à ce micro-là.
Ouais. Ben en fait, c'est un micro, je ne sais pas exactement comment il fonctionne, mais en tout cas, je sais qu'il est aimanté. Du coup, tu le mets sur des surfaces en métal, comme un radiateur, un poteau, n'importe lesquels en fait.
Des tuyaux,
enfin, c'est assez vaste. Tu peux vraiment explorer toute la matière métallique et ça va récolter les vibrations qu'il y a à l'intérieur, de 0 à 1000 Hz exactement. Et du coup, tu utilises ça et ça donne vraiment des choses très assez sombres en fait, assez très vibratoires, très métalliques du coup. Et ça permet vraiment de faire soit des nappes, soit faire des rythmiques aussi. Enfin, il y a beaucoup de rythmiques dans Murmuration qui sont utilisées avec ça. Et du coup, voilà. Et après, plein d'autres sons que tu transformes. Il y a un son de papier qu'on a fait, qui est utilisé, mais vraiment retransformé pour faire une sorte de battement d'ailes. Enfin, il y a pas mal de choses. Et après, tout le reste, c'est pas mal de banques de sons, finalement, en fait. Et de sons qu'on a pris aussi, que moi, j'avais dans mes disques durs ou des choses comme ça.
En fait, il y a eu, au niveau du tournage, il y a eu trois styles de prise de son. Il y a eu une prise de son comme on est là à la radio, c'est-à-dire où les personnages jouaient face à un micro, mais en fait en statique. Et après, on a recontextualisé avec en faisant des lasagnes de son en gros derrière pour inventer un décor quoi, sonore. Mais les personnages sont comme là on est quoi, assis face à un micro en train de jouer. Il y a eu un deuxième style de prise de son qui était une prise de son un peu comme au cinéma à la perche pour toute la première scène là, de Elio dans sa cuisine. Donc on voulait vraiment pas créer la contextualisation, mais qu'elle soit faite de manière vivante et très réaliste. Donc là, ils ont suivi Manu pendant quelques temps à faire plein de trucs, voilà, dans une cuisine qu'on a choisie pour l'acoustique, etc. Et le troisième style, c'est justement tous ces trucs de bruitage. Et où du coup, on s'est dit, bon, on a besoin de faire croire que l'oiseau se déplace dans son nid. Bon, il ne faut pas qu'on fasse des bruits de pas d'humain, parce que ce serait complètement un contresens. Mais il ne faut pas qu'on mette un bruit d'oiseau, parce que ça va trop donner l'indice tout de suite. Donc, on a cherché des sons comme ça, qui pouvaient un petit peu se rapprocher de l'idée sans trop donner d'infos. Enfin, donc on a pris des plumes, on a pris des capsules pour créer une ambiance un peu de squat. On a créé de la paille pour créer le côté du nid. On a essayé de chercher des trucs, quoi, des poches plastiques.
Ouais, c'est beaucoup de bruitages en fait, où on utilisait nos petits doigts pour faire croire que c'était des petites pattes sur la paille. Et après tout ça en montage, du coup j'essayais de le rythmer pour qu'on croie en fait à cet espace-là. Donc là, c'est vraiment de la recréation totale où tu refais tout en utilisant plein de sons pour ta Kenune. Et après, pour Elio, effectivement, c'était vraiment en direct où on faisait tout dans le même endroit, avec un peu de montage, évidemment, avec des ambiances rajoutées, etc. Mm. Voilà.
Et après, il y a eu aussi des choses qui n'ont pas été enregistrées par nous.
Ouais.
Et qui sont, par exemple, tous les sons des oiseaux, ça vient des banques de sons de la LPO.
Oui, c'est vrai.
Qui sont des banques de sons libres de droit.
Ligue de protection des oiseaux.
Ouais, c'est ça, la Ligue de protection des oiseaux, ouais. Qui ont donc sur leur site, enfin sur un site parallèle à leur site, ils ont plein de sons comme ça qui sont libres de droit, donc on a pioché dedans. Il y a des choses comme ça qu'on a pris qui sont des sons qui étaient déjà enregistrés par d'autres gens, quoi. Ouais.
Xenocanto, je crois.
Xenocanto.org, ouais. Pour l'info.
Ouais, non, ça a bien servi, ça, pour faire tous les sons. Ouais. Et après, s'il y a une quatrième prise de son, c'est celle de Youssef, du coup, avec la contrebasse. Ouais. Du coup, là, vraiment une prise de son musicale où on n'avait pas d'idée précise. Et c'est lui, on lui a donné un peu les intentions, surtout toi, Lila. Et après, il a un peu improvisé dessus. Et voilà, on a choisi ce qui nous plaisait là-dedans, quoi.
Oui, là, c'est une... Il a fait une création à partir d'indications, d'humeur et de choses qu'on voulait, mais on n'avait pas encore fait le montage. Ouais. Du coup, c'est vraiment comme... Ouais, c'est une partition improvisée et c'est vraiment une création musicale, quoi.
La seule chose... jetée à la mer, quoi.
Après, ouais. Ouais. Vas-y, joue.
La seule chose qu'on lui avait donnée, c'était la création avec les oiseaux, les murmurations, tout ça, la polyphonie. On lui avait fait écouter pour que ça l'inspire, et après, du coup, il a improvisé là-dessus. Mmh. Et ça a donné un truc de fou, quand même. Ouais.
Est-ce que, là, ça fait combien de temps que le montage est terminé, qu'il y a une version finie de cette création?
C'est fin septembre, début octobre, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, le mixage.
Et du coup, c'est quoi un petit peu la vie de cette création depuis qu'elle est née? Est-ce que vous la diffusez? Est-ce que... Oui, qu'est-ce que... Parce qu'au final, il y avait une destination qui était France Culture. Mmh. Là, aujourd'hui, voilà, quel a été son parcours à cette création sonore? Est-ce que vous avez l'intention de la diffuser dans des lieux publics, la proposer à l'écoute?
L'idée, c'est de la diffuser comme ça sur des radios, associatives ou indépendantes en tout cas. Les grosses chaînes de radio, on va dire, ne fonctionnent pas comme ça. On ne peut pas leur envoyer de production toute faite. Ils veulent être producteurs des projets, donc on peut leur envoyer des maquettes de projets, et s'ils sont producteurs, là, le tournage, etc., se fait avec eux, quoi, et selon leurs conditions. Donc, les grosses chaînes de radio ne vont pas pouvoir diffuser un truc comme ça, un produit fini, entre guillemets.
Mais bon, en termes de format aussi, on n'a pas du tout un format qui est censé passer, par exemple, sur France Culture ou quelque chose comme ça. Parce qu'on a 23 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est souvent quand même 59 minutes sur France.
Oui, je voulais vous poser la question. C'est vrai que c'est assez rare d'entendre des créations sur ce format-là. Moi, je trouve ça plutôt chouette aussi. Mais oui, sur ce choix de 22 minutes.
en fait, justement, on ne s'est pas trop mis de cadre au niveau du format. On n'avait pas envie de s'embêter avec cette question-là. Du coup... Bon, on savait qu'à la lecture comme ça, c'était à peu près 15 minutes. Donc, on savait que ça ferait entre 15 et 30, quoi. Mais on n'a pas... assez rapidement, on s'est demandé si on voulait se mettre un cadre. On s'est dit que, de toute façon, ça devrait passer par d'autres chemins que les chemins un peu officiels. de la production, etc. Donc que là, on avait envie d'être sur un truc expérimental, qu'on avait envie d'essayer nous, voilà, comme on avait envie de le faire. Et du coup, on ne s'est pas trop embêté que ça. Mais voilà, après, là, on va l'envoyer donc à différentes radios pour que ça soit diffusé comme ça, de manière libre et tout. Et puis, après, avec la compagnie, on va aussi proposer des écoutes dans des lieux pour l'écouter de manière collective sur des enceintes, quoi, soit en stéréo, soit en quadriphonie, par exemple, enfin, d'avoir une expérience immersive à plusieurs pour écouter l'histoire. Et c'est aussi un objet sonore qui vise à présenter un projet de la compagnie d'une manière artistique. Donc, parce qu'avec la compagnie Toile Cirée, du coup, on a ce projet Murmuration qui se décline en trois volets. Il y a le volet sonore qu'on vient d'entendre. Il y a un volet lecture qui est proposé à différents lieux pour jouer, voilà. Qui est juste une lecture par une comédienne, par Nathalie Aftimos. Et le troisième volet, qui est un volet spectacle en espace public, et donc associé à un territoire, du coup associé à des habitants et à des acteurs socioculturels d'un territoire pour créer ce projet.
Ça, ce serait un spectacle qu'on aura le plaisir de pouvoir, auquel on pourra assister alors, à Toulouse, par exemple. Tu parles de territoire, est-ce que c'est sur ce territoire-là ?
Eh bien, pour l'instant, pas à Toulouse, mais on est en train de travailler avec un quartier à Montpellier, le quartier de Verbois, pour créer le spectacle là-bas. Donc, Mathias fera aussi la création sonore dans ce projet-là. Et donc, on travaille avec les habitants, avec des structures, avec l'ateline, avec des ornithologues, pour récolter donc des témoignages, des infos scientifiques, etc. sur cet endroit et écrire un spectacle qui parlera aussi donc d'inversion des rapports de force comme ça et de cohabitation entre humains et oiseaux sur un endroit et qui reprendra aussi un peu le délire de récit d'invasion mais à travers une autre histoire, à travers une autre intrigue, quoi.
Ça me donnait envie de vous poser la question, puisque tu parlais de ton observation des oiseaux comme des voisins. Est-ce que, si vous étiez un oiseau, je m'adresse à tous les trois, c'est une question un peu originale, il nous reste 2 minutes, il va falloir être inventif. Est-ce qu'il y a des oiseaux auxquels vous vous identifiez plus que d'autres ?
Je crois, moi, que je ne m'identifie pas aux oiseaux. Non, mais je les regarde.
C'est tes voisins, quoi. Mais...
Ouais.
C'est difficile.
Mais j'aime beaucoup la huppe fassier, moi.
Ok.
J'aime beaucoup la huppe avec sa crête. Je la trouve très, très charismatique.
Moi, j'adore les hérons cendrés, mais après, je m'identifie pas forcément à eux, ouais. Mais ouais.
Je passe.
Merci. On va se quitter dans quelques minutes. Il y a peut-être des actualités ou des infos à faire passer. On peut le faire maintenant. Et puis, voilà.
Bah, par rapport à Murmuration, le projet dont parlait Lila à Verbois, à Montpellier.
Oui, il va y avoir une présentation du coup de ce travail, enfin une représentation du coup de l'écriture, enfin de la forme spectacle, le 21 mai. Il va y avoir une lecture aussi en février à Montpellier. La forme lecture, le volet lecture sera présenté aussi à Verbois le 7 février. Et sinon, il y a l'actualité aussi du spectacle Fugue qui va jouer en février. Je vais laisser Périne.
Qui va jouer, en tout cas dans la région toulousaine, ça joue le 31 mars au Centre culturel Albin Mainville, en rue. Et ça jouera au prochain Festival d'Or à Montville aussi, qui aura lieu le deuxième week-end de septembre, en principe, autour du 10 septembre. Et il y a aussi une lecture de Murmuration qui joue en mai dans le Tarn. Lila, c'est toi qui es à la confiserie à Ravastens.
Ce sera le 27 mai.
Cool.
Okay, et bon. Juste pour resituer un tout petit peu, Fugue, donc, c'est la création qui vient de sortir de la compagnie. C'est un spectacle qui a été écrit par Perrine, qui est donc un spectacle qui joue en espace public, en déambulation, et qui parle de la fugue d'une trentenaire qui s'évade, qui fugue.
Qui fugue. Et on pourra parler bon, sur Canal des dates oui, à l'occasion. Oui.
On a un site internet qui est très récemment mis à jour. Du coup, vous pouvez aller sur le site, c'est l'étoilecirée.fr et il y a un agenda et plein d'infos sur tous les autres projets. Il y a d'autres projets de territoire de la compagnie qui sont en ce moment un peu partout en Occitanie. Et n'hésitez pas à aller voir.
Ben, merci beaucoup à vous.
Merci
à bientôt.
À toi.
Merci.
Et sachez que jusqu'à 20h ce soir, il y a une permanence à l'expo de Canal, donc dans la salle d'expo, et vous êtes grandement bienvenue, vous êtes invité à vous joindre à nous. Manu se fera un plaisir de vous recevoir jusqu'à 20h. Il y a des photographies, des peintures, il y a toutes sortes de formats et de créations à apprécier. Voilà, et puis nous, on se retrouve à partir de demain où on parlera d'une brochure qui vient de sortir sur le conspirationnisme. Voilà, à demain.